Bonjour, bienvenue en Transparente, le magazine de rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invitée ce midi, c'est Sonia Backès, la chef de file des loyalistes. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Alors, votre actualité, c'est bien sûr la participation aux négociations de Bougival et la signature du projet d'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Vous allez nous détailler tout cela parce que vous le savez, les Calédoniens ont beaucoup, beaucoup d'interrogations, d'incertitudes. Mais d'abord, quand vous êtes partis les uns et les autres, l'accord semblait très franchement assez improbable, surtout après l'échec de Deva. À quel moment vous avez vu que c'était possible et que les choses se sont débloquées ?
Très franchement, on savait que le chemin était très 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 étroit et jusqu'à présent, on n'avait pas le sentiment qu'il y avait la volonté de tout le monde de trouver un accord. Et c'est vrai qu'avant de trouver un chemin escarpé, il faut au moins essayer de le prendre et on n'avait pas le sentiment que c'était la volonté de tous. Je crois qu'il y a eu un basculement au début de la négociation, quand on a demandé aux indépendantistes d'avoir une discussion entre les parties qui étaient les plus éloignées, sans l'État et sans ce qu'on appelait entre nous le bloc central, c'est-à-dire Calédonie Ensemble et l'éveil océanien, où en fait on a essayé de prendre un chemin de dire comment on fait pour sortir la Nouvelle-Calédonie de l'ornière de manière pérenne, sans recommencer ce qu'on avait fait en 88 et en 98, c'est-à-dire ces accords temporaires avec une épée de Damoclès au bout. Et c'est vrai qu'à l'issue de ces deux jours de discussion entre nous, on a commencé, même si on a évidemment jusqu'au bout, on a pensé échouer, hein, jusqu'à une demi-heure avant la signature, on ne savait pas si on reviendrait sans accord.
Au terme d'une nuit blanche.
Au terme d'une nuit blanche, on a les uns et les autres cru que c'était terminé quelques minutes encore avant. Et on avait accepté l'idée, enfin nous, moi j'étais pas du tout partie là-bas et notre délégation n'était pas du tout partie négocier en se disant qu'il fallait un accord à tout prix. Évidemment c'est mieux d'avoir un accord, mais on était aussi préparé à ce qu'on n'était pas du tout prêt à accepter un accord qui soit moins bien que le pas d'accord, en fait. Donc, mais on a vu un chemin s'ouvrir au bout de ces discussions avec les indépendantistes. On n'était pas sûr que ça aboutisse. Au final, je pense que c'est une bonne chose pour la Nouvelle-Calédonie qu'on ait signé.
Et donc, ça veut dire que le lien est quand même rétabli entre vous, qu'il y a de la bonne volonté, si on peut dire, dans la délégation indépendantiste, une volonté en tout cas d'aboutir à un accord ?
Oui, alors personne n'est naïf, personne n'oublie ce qui s'est passé il y a quelques mois. On n'est pas, je le dis régulièrement, mais on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. On a des gens qui n'ont pas la même volonté que nous, qui n'ont pas la même volonté de trajectoire que nous, le même aboutissement souhaité que nous. Je crois qu'il y avait une volonté partagée que la Nouvelle-Calédonie aille mieux. Et c'est vrai que la recherche de cette solution, elle permet quand même à tout le monde d'aller mieux.
Alors pour vous, et c'était votre première réaction, notamment au travers d'un communiqué des loyalistes et du Rassemblement, c'est que c'est un accord pérenne, un accord dans le temps. Il n'y a plus de butée, il n'y a plus de référendum d'autodétermination. C'est un accord qui peut exister indéfiniment et c'est vraiment un point central pour vous, c'est ce qui permet de préparer l'avenir, en fait.
Oui, c'est ça la vraie révolution de cet accord. Depuis 88, moi, tout ce que j'ai connu en politique était avec des échéances. 88, c'était 98. En 98, c'était 2014, puis 2018, puis 2020, puis 2021. Puis là, le grand vide depuis 2021, où on est dans un espèce de statut suspendu. Et en fait, on n'a jamais eu d'horizon dégagé, en fait. Ça n'empêche pas la revendication indépendantiste, ça n'empêche pas notre désaccord fondamental sur le fait de rester dans la France ou pas dans la France, mais on a toujours eu ces échéances qui pourrissent la vie des Calédoniens, parce que quelques années avant, on l'a vu à chaque fois, quelques années avant, il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus d'embauche, il y a un ralentissement, il y a des gens qui partent, donc c'est infernal. Et donc c'était l'un des enjeux fondamentaux pour nous, c'est pour ça qu'on était pas en phase avec la proposition, ce qu'on avait appelé la V1, au tout début des négociations, de dire au bout de 15-20 ans, on remet un référendum. Parce que c'était remettre sur les épaules de nos enfants exactement ce que nos anciens ont fait avec nous. Donc vraiment, cette histoire de pérennité, c'est fondamental dans cet accord.
Parce que le président de la République lui-même, si vous avez proposé le 2 juillet, c'était une nouvelle période transitoire et donc vous avez réussi à la mettre de côté, à l'écarter ?
Oui, on était. Alors, je comprends très bien que le président de la République ait fait cette proposition, puisque à la suite de l'échec de Deva, je pense que plus personne n'espérait un statut pérenne. Donc il essayait d'en sortir en se disant 15-20 ans, c'est un moindre mal. On était fondamentalement en désaccord avec ça. 15-20 ans, c'était simplement le temps qu'il fallait aux gens pour se décider de régler leurs affaires et de partir. Et au final, c'était la mort lente de la Nouvelle-Calédonie. Donc, depuis le départ, moi, j'étais en désaccord avec cette histoire de statut transitoire. Et finalement, c'est très rassurant de savoir qu'on est passé à autre chose.
Alors, un statut pérenne, il n'empêche que l'accession à la pleine souveraineté, ça passe notamment au point où on est la Nouvelle-Calédonie, à un transfert des compétences régaliennes. Et là, il y a quand même une porte ouverte ou entrouverte, puisqu'il y a une possibilité de transfert des compétences régaliennes. Est-ce que ça veut dire que c'est quand même malgré tout une trajectoire vers une possible pleine souveraineté? Ou est-ce que vraiment cette porte-là est tellement étroite que vous pensez que c'est quasiment écarté?
Alors, c'est pas une trajectoire, parce qu'une trajectoire, c'est un espèce, enfin, dans ma vision des choses, c'est un espèce de toboggan où finalement on n'a pas le choix que d'aller là où on veut pas aller. C'est en l'occurrence, c'est... là, la porte est ouverte. C'est effectivement, si un jour on a une très large majorité de Calédoniens qui veut le transfert de compétences régaliennes, bah, il y aura transfert de compétences régaliennes. Mais le mécanisme est suffisamment complexe pour que ça ne soit fait que si réellement, d'une part, la Nouvelle-Calédonie en a les capacités, et d'autre part, que la majorité des Calédoniens le souhaitent. Je rappelle les trois verrous. Le premier, c'est qu'il faut que 64% du Congrès, 36 sièges sur 56, demandent un transfert d'une compétence régalienne. Donc déjà, aujourd'hui, on est quand même, si on projette les dernières élections législatives sur la nouvelle configuration du Congrès, on est très loin d'avoir, même si on ajoutait Calédonie Ensemble et l'éveil océanien aux voix des indépendantistes, d'avoir cette majorité qualifiée pour transférer une compétence régalienne. Donc ce premier cran, il est déjà complexe à obtenir et il est pas dans les faits, au vu des derniers résultats des élections, atteignable à ce stade. Ensuite, on a un deuxième cliquet qui est la soutenabilité, donc un groupe de travail avec l'État et la Nouvelle-Calédonie, qui travaille sur la soutenabilité d'un tel transfert. Imaginons que le Congrès, avec 64% des voix, décide de transférer la défense. Il faudrait prouver que la Nouvelle-Calédonie est capable d'assumer la compétence en matière de défense. Bon, vous comprenez bien que ce n'est pas gagné. Et la troisième phase, en imaginant que les deux premières soient passées, c'est de poser la question aux Calédoniens. Donc, ça voudrait dire que plus de 50% des Calédoniens souhaitent transférer la compétence en matière de défense. Bon, objectivement, Elisabeth, si on avait la majorité des Calédoniens qui souhaitent le transfert de cette compétence, on ne peut pas être démocrate et dire qu'on n'est pas d'accord avec ça.
Alors, il y a quand même une compétence régalienne qui est transférée, c'est la compétence en matière de relations internationales. C'est quoi le parcours, c'est quoi le périmètre de cette compétence? Est-ce que c'est uniquement dans la zone pacifique? Est-ce que c'est une compétence pour l'ensemble des relations internationales?
C'est surtout, en fait, limité aux compétences des institutions de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas y avoir de diplomatie ou d'accord ou de traité passé sur des compétences qui ne sont pas celles de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas avoir un accord de défense ou un accord sur la justice ou un accord sur la sécurité ou un accord sur la monnaie avec d'autres pays. Mais par contre, on peut avoir un accord commercial avec le Vanuatu, avec Fidji, avec un autre État, sans avoir à demander l'autorisation de la France. Avec un autre verrou qui est que, quel que soit l'accord, et même dans le cadre des compétences de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, ça ne peut pas être contraire aux intérêts de la France. Ça veut dire que concrètement, s'il devait y avoir des accords commerciaux passés avec des pays qui sont des pays ennemis de la France pourrait malgré tout s'y opposer.
Alors la concession la plus importante peut-être, c'est le fait que la Nouvelle-Calédonie devient un État. Le projet parle d'une organisation institutionnelle sui generis de l'État de la Nouvelle-Calédonie au sein de l'ensemble national, inscrit dans la Constitution de la République française. Il pourrait être reconnu par la communauté internationale. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Alors on essaie de mettre un nom, État associé, État fédéré, protectorat, tout a été envisagé. En fait, c'est vraiment, on a créé quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs.
On est les spécialistes de ça en Nouvelle-Calédonie, on est les spécialistes de créer des choses qui n'existent pas. Alors, on voit maintenant les autres Outre-mer regarder ça avec attention. Je pense que Ce serait pas une mauvaise chose que d'autres se posent la question de leur évolution également. Et je pense que on a intérêt à être le plus ouvert possible en fonction des situations de chacun des Outre-mer. Mais pour la Nouvelle-Calédonie, c'est effectivement ni un État fédéré, même si il y a beaucoup de choses qui y ressemblent, mais un État fédéré n'a pas de nationalité propre, donc c'est en soi pas un État fédéré. C'est pas un État associé, puisqu'un État associé, c'est un État indépendant qui est associé avec un autre État indépendant, et comme vous l'avez bien noté, l'État de Nouvelle-Calédonie est dans la République française, donc à ce titre, il n'est pas un État associé. Donc en fait, il est incomparable avec ce qui existe déjà. On crée quelque chose de nouveau, on crée un État de Nouvelle-Calédonie avec des compétences propres, avec une forme de souveraineté, avec la loi fondamentale qui lui permet d'exercer un certain nombre de compétences elle-même, mais on est dans la République française de manière extrêmement claire.
Création également d'une, vous faisiez allusion à d'une nationalité calédonienne avec une double nationalité française et calédonienne. Alors, est-ce que c'est cosmétique? Est-ce que c'est seulement un autre nom de la citoyenneté ou est-ce que ça va plus loin?
Alors, c'est pas que cosmétique, c'est une nationalité. Donc, il y aura sans doute un passeport calédonien. Mais par contre, cette nationalité, elle est inséparable de la nationalité française. C'est-à-dire qu'on ne peut pas n'avoir que la nationalité calédonienne. On est obligé d'avoir la nationalité française. Donc, à ce titre, c'est pas une nationalité au sens où on l'entend dans un État indépendant. Donc, ça n'est pas que la citoyenneté telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais ça n'est pas non plus une nationalité pleine et entière telle qu'on la connaît dans un État indépendant. C'est encore une fois quelque chose de spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Je pense que les constitutionnalistes qui vont avoir à traiter notre accord vont s'arracher les cheveux. Mais ça demande un effort intellectuel. La Nouvelle-Calédonie demande ça parce que la population, elle est divisée en deux. Le chemin, il était extrêmement étroit. Et l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, c'est, à l'intérieur de l'ensemble national, d'arriver à avoir le temps de construire quelque chose ensemble. Je ne crois pas qu'on soit en capacité de le faire aujourd'hui. Le titre de l'accord, c'est le pari de la confiance. J'étais un peu sceptique sur ce titre parce qu'aujourd'hui, je ne considère pas qu'on se fasse confiance. Mais je considère que les mécanismes qu'on a mis en place et le fait de ne plus avoir ces échéances permanentes peut nous permettre de construire quelque chose. Et la nationalité faisait partie des choses qui étaient importantes pour les indépendantistes en termes de marqueurs. Et donc, on le comprend. Et comment on a fait? On a réussi à concilier le fait d'être à l'intérieur de l'ensemble national et d'avoir ces marqueurs de souveraineté.
Alors, je décline encore les autres points qui peuvent interpeller les Calédoniens. La loi fondamentale. Alors bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça consacre la capacité d'auto-organisation de la Nouvelle-Calédonie. Pour certains, c'est une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir parce que ça veut dire que la Calédonie peut s'organiser toute seule de façon indépendante. En fait, c'est quoi cette auto-organisation? Ça va concerner le Congrès, les provinces, les pouvoirs propres de la Calédonie?
Oui, alors c'est malgré tout très cadré. Certains qui critiquent l'accord parlent d'une constitution. On n'en est évidemment pas là. C'est encore une fois la limite de l'exercice et la construction intellectuelle qu'on fait pour rester dans la République tout en ayant une autonomie extrêmement forte. La loi fondamentale, en fait, elle va aller chercher dans la loi organique actuelle tout ce qui finalement peut être géré par la Nouvelle-Calédonie en direct. Aujourd'hui, il y a dans la loi organique qui est votée par le Parlement français, donc on demande aux députés et aux sénateurs qui, pour la plupart, n'y connaissent pas grand-chose à la Nouvelle-Calédonie, de décider à quelle date on réunit le Congrès pour voter le budget, combien il faut d'élus pour faire le quorum, comment on... Bon, il y a des choses, objectivement, qui n'ont rien à faire dans une loi organique et qu'on peut faire nous-mêmes. Ça va au-delà de ça, puisqu'on a décidé d'y mettre les signes identitaires sans que ça a changé quoi que ce soit, puisqu'aujourd'hui, dans l'accord de Nouméa et dans la loi organique, il est prévu que le drapeau et le nom, puisque ce sont les deux signes identitaires qui n'ont pas encore été choisis par les Calédoniens, soient adoptés aux 3/5 du Congrès. On refait la même chose, alors avec un petit avantage, c'est qu'on a rééquilibré le Congrès, donc ça va être un peu plus compliqué d'imposer aux autres un signe identitaire qui ne serait pas partagé par tous, mais en gros, ça n'a rien changé. Et mettre ça dans une loi fondamentale ou dans la loi organique, ça change pas grand-chose.
On y reviendra, mais pour que les choses soient un peu claires, dans le calendrier, cette loi fondamentale, elle sera adoptée par le Congrès qui sera élu lors des prochaines provinciales de 2026.
Après, effectivement, c'est
Donc c'est
normal. Enfin, ça fait partie des choses qui me semblent normales dans une démocratie, c'est-à-dire que aujourd'hui on est plus qu'en fin de mandat puisque on a quand même dépassé largement.
Vous êtes hors délai là.
On est hors délai. Certains parlent de date de péremption sans doute, mais enfin en tout cas on est arrivé au bout de notre mandat. Et c'est normal dans la mesure où cette loi fondamentale, c'est quand même ce qui relève de la Nouvelle-Calédonie, que ce soit les élus nouvellement élus qui la construisent et qui la votent. Parce qu'ils seront légitimes pour le faire.
Alors, de votre côté, vous avez obtenu des choses. Quand même, il n'y a pas que des concessions. L'absence de référendum, on l'avait dit. Et aussi l'ouverture du corps électoral. Alors ça, comment les indépendantistes ont-ils donné leur accord pour une ouverture du corps électoral quand on se rappelle tout ce qui s'est passé l'an dernier et les années précédentes où c'était vraiment pour eux un point de blocage absolu?
D'abord, si vous me permettez de rappeler, il y a 5 points qui sont pour nous des avancées majeures. Je me permets de les rappeler parce que on dit beaucoup de choses et je pense que c'est important d'être synthétique. Le premier point, on est dans la France. Le deuxième, il n'y a pas de nouveau référendum. Le troisième, vous l'avez dit, c'est l'ouverture du corps électoral. Le quatrième, c'est le rééquilibrage du Congrès. Et le cinquième, c'est le pouvoir aux provinces. Ces 5 points, c'était 5 points qui étaient fondamentaux pour nous et qu'on retrouve dans l'accord. Pour revenir sur le corps électoral, je pense que l'ouverture du corps électoral n'aurait pas été acceptable par les indépendantistes si ça n'avait pas été dans le cadre d'une nationalité et d'un État. Concrètement, et c'est ce qui explique très bien Victor Tutugoro dans l'interview qu'il donne aujourd'hui à un média calédonien, on est dans autre chose. On a un État calédonien dans la République française, on a une nationalité et donc on n'est plus dans ce corps électoral qui finalement génère le choix de faire un référendum, l'autodétermination, puisqu'on n'a plus de processus d'autodétermination en soi. Donc l'ouverture de ce corps électoral, finalement, elle ne se fait pas du tout dans le cadre de la contestation qui a eu lieu le 13 mai dernier, puisque, encore une fois, on ne parle pas d'un corps électoral pur et simple, mais de comment on accède à la nationalité calédonienne.
Avec un corps électoral tout de même à 15 ans, ouvert à 15 ans dès la fin de cette année.
Oui, enfin, dès 2026.
Dès 2026, dès les prochaines élections provinciales. Pourquoi 15 ans? Ça a été... On avait parlé de 10 à chaque fois, 10 ans glissants. Là, on arrive à 15.
Oui, ça fait partie des négociations de dernières heures. C'était les derniers débats ont porté sur, sans trahir de secret, mais sur la question des verrous pour les compétences régaliennes, ce dont nous avons parlé avant, et sur la question de la durée pour le corps électoral. On est arrivé à l'équilibre subtil de 64% du Congrès pour le transfert des compétences régaliennes et sur 15 ans en 2026 et 10 ans en 2031, à partir de 2031, pour le corps électoral. C'est le résultat d'une négociation, je ne suis pas sûre qu'il faille chercher de subtilité autre que celle-là.
Alors, vous le disiez vous-même, autre avancée pour les partisans de la France, la recomposition du Congrès, ça se traduit comment en fait? C'est la province sud qui a plus d'élus au Congrès?
Oui, c'était devenu...
Alors, il y a 2 élus de plus au Congrès?
Il y a 2 élus de plus au Congrès. Alors, je rappelle que ça ne paye pas plus d'élus, puisqu'en fait, les élus sont payés par les provinces et pas par le Congrès.
Voilà, c'est donc un point important, parce que les gens, certains ont commencé à dire on doit faire des économies.
Non, en fait, ça ne coûte pas plus cher, puisqu'en fait, je rappelle que les élus ne sont pas payés pour être élus au Congrès. Ils sont simplement rémunérés pour leur poste à la province. Donc, avoir 2 élus de plus au Congrès, ça ne coûte pas 1 franc de plus aux contribuables. Donc, c'était un équilibre politique important, puisque je rappelle que la province sud ne disposait que de 59% des sièges au Congrès, alors qu'elle a 74% de la population qui vit dans le sud. Donc là, on est revenu à un équilibre, à moins de déséquilibre en tout cas, puisqu'on a aujourd'hui 66% dans le projet d'accord, 66% des élus du Congrès qui sont issus de la province sud, avec une évolution qui est prévue dans l'accord également, en fonction de l'évolution démographique, ce qui n'existait pas et ce qui a généré le déséquilibre tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc petit à petit, on peut effectivement rééquilibrer.
C'est la loi fondamentale qui éventuellement réajustera au fur et à mesure le nombre de membres du Congrès ou ça
de mémoire, c'est dans la loi organique, mais je suis plus sûre.
Des avancées également, vous le disiez, en matière de compétences provinciales. Alors là, on sait que c'était l'une des bases de votre projet, une provincialisation accrue. Il y a notamment la compétence fiscale. Vous vouliez aller plus loin. Qu'est-ce qui vous satisfait dans ces nouvelles compétences et qu'est-ce que vous souhaitez réclamer éventuellement pour les provinces?
Sur les provinces, on a obtenu ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire 2 choses. La compétence fiscale qui est prévue et la possibilité de transférer des compétences de la Nouvelle-Calédonie vers les provinces. Ces 2 dispositifs sont prévus dans le projet d'accord. Encore une fois, c'était un élément important de notre capacité à citer un accord, parce que on considère que on peut plus fermer les yeux sur nos différences en matière de développement économique. On ne peut pas avoir les mêmes méthodes, les mêmes façons, le même projet de développement économique selon qu'on est dans une province avec 98% de terres coutumières ou dans une province qui génère 91% de la fiscalité calédonienne. C'est juste, à un moment donné, un constat pragmatique, et il fallait une réponse institutionnelle qui soit capable d'apporter des solutions à ce constat pragmatique. Et ce qui est dans l'accord nous convient, puisque ça permet à la fois d'avoir la compétence fiscale et d'avoir la capacité d'avoir plus de compétences pour les provinces.
Et ça satisfait, on imagine aussi, donc les indépendantistes, les responsables des provinces Nord et Îles, vont pas se sentir, sinon s'ils ont la compétence fiscale, ils savent que c'est pas à leur avantage quand même, si.
Alors, un mécanisme de solidarité est prévu, hein, puisque, mais ce n'est plus la clé de répartition. La clé de répartition a été, selon nous, un échec, puisqu'en fait, on a distribué de l'argent sans finalement s'assurer de la fixation des populations. L'objectif de la clé de répartition, c'était de développer, de rattraper le décalage de développement de la province Nord et de la province des Îles pour que les populations y aient des infrastructures, du travail, etc. Au final, on se rend compte qu'on est passé en 20 ans de 66% de la population dans le Sud à 75%. Ça veut dire que, concrètement, le rééquilibrage tel qu'il existait a échoué. Là, l'idée, c'est de mettre en place un mécanisme de solidarité qui soit lié à la fixation des populations. C'est-à-dire que, concrètement, plus les provinces Nord et les provinces des Îles auront des infrastructures du développement qui permettra de fixer des électeurs en province Nord et en province des Îles, et plus la solidarité sera importante.
Alors bon, on ne peut pas tout dire, hein, parce qu'il y a 13 pages, mais il y a quand même beaucoup de choses. Il y a quand même à la fin un accord sur les données économiques et financières. Il n'a pas encore été très travaillé, il a besoin d'être encore approfondi, ou est-ce que déjà il y a des lignes satisfaisantes selon vous ?
Oui, il est un peu la partie économique est un peu légère. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps sur l'institutionnel. La société civile a fait un gros travail en amont dans le cadre de l'invitation qui a été lancée par le président de la République. Mais je trouve que l'État aurait pu garder la société civile un peu plus longtemps et faire l'équivalent de ce qu'on a fait à Bougival sur les questions économiques et financières. Je pense que ce qu'il y a dans l'accord, et ça pose des bases, mais c'est à ce stade insuffisant, et j'espère que dans le cadre du process qui va maintenant être mis en œuvre sur la validation de cet accord, il y aura un peu plus d'éléments sur le plan économique que ce qu'il y a dans l'accord.
L'essentiel, c'est la filière nickel quand même. Est-ce que là, vous rentrez de Paris avec un espoir qu'elle puisse être relancée, que l'État mette les moyens pour permettre le développement de la filière, enfin le redémarrage de la filière ?
Je pense que d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, parce que j'ai eu l'occasion de voir le ministre de l'Économie et des Finances pour porter un certain nombre de dossiers, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vision de Bercy, enfin de la Nouvelle-Calédonie par Bercy, a changé avec l'accord. Honnêtement, ils commençaient à en avoir un peu ras-le-bol de nous parce qu'ils nous ont mis sous perfusion et qu'ils se demandent quand est-ce que la perfusion s'arrête. Moi, ce que j'ai dit au ministre de l'économie, c'est que pour arrêter la perfusion à la Nouvelle-Calédonie, il faut mettre un coup de défibrillateur. Le coup de défibrillateur, c'est des grands travaux, c'est un accompagnement sur la filière énergie qui est défendu largement depuis des mois et des mois par Christopher Gigès au gouvernement. Là, c'est le moment ou jamais de développer ça. C'est le moment également de nous aider à apurer nos dettes. L'économie va se relancer avec l'accord. On commence à avoir des signaux, les gens vont évidemment reprendre confiance, mais on ne peut pas repartir, on ne peut pas avoir une relance économique avec les boulets qu'on a au pied, des dettes de la Nouvelle-Calédonie, des dettes de la dette d'Uruam, de la dette d'Enercal, le SMTU à 22 milliards de dettes, ça veut dire qu'on a un ticket de bus à 500 francs. Comment on imagine que les gens vont aller bosser avec un ticket de bus à ce prix-là ? Enfin, on a des choses qui sont insoutenable, et donc on a besoin que l'État donne un coup de défibrillateur pour que la Nouvelle-Calédonie reparte.
Et vous savez quand vous aurez une réponse de Bercy sur ces points-là ? Faut attendre la loi de finances, ou sera avant ?
Non, je pense que cet accord, il va faire l'objet d'une ratification sans doute plus officielle dans les prochaines semaines, et je pense que la partie économique arrivera à ce moment-là.
Ah justement, ce projet d'accord, c'est encore un projet. Hein. Il y a tout un cheminement législatif. Premier acte, l'adoption de la loi organique qui reporte les élections provinciales. Ce serait une simple formalité, là, on peut penser ?
Je pense. je pense.
Il y a ensuite l'adoption du projet de loi constitutionnelle, ça veut dire réunion du congrès, enfin vote dans les deux chambres, réunion du congrès de Versailles. Est-ce que dans le paysage actuel de la politique nationale, ça comporte des risques, ou est-ce que vous pensez que le président de la République va arriver à réunir le congrès de Versailles et obtenir la majorité nécessaire pour modifier la Constitution ?
Alors, le Parlement français est quand même pas dans une situation de stabilité absolue, donc c'est tout évidemment, toutes les étapes présentent un risque, c'est très clair. Il faudra obtenir la majorité des 3/5 au Parlement à Versailles, donc après l'Assemblée, après le Sénat. Je pense qu'on y verra clair après les passages au Sénat et à l'Assemblée, hein, on verra quels sont les équilibres. J'ai eu l'occasion, moi, de discuter avec Marine Le Pen, qui a fait part de ses doutes et du fait qu'elle serait attentive à la manière dont la Constitution serait rédigée. Je pense que c'est une bonne chose, c'est-à-dire je pense qu'il faudra être vigilant à toutes les étapes, à l'étape de la rédaction de la loi constitutionnelle, à l'étape de la rédaction de la loi organique spéciale. Il va falloir de l'attention, et donc je pense qu'il faudra que ceux qui défendent le projet qu'on défend pour la Nouvelle-Calédonie soient attentifs à ce que les ambiguïtés soient levées dans le bon sens.
Alors, les Calédoniens seront ensuite consultés en février 2026. S'ils refusent de donner leur accord, s'il y a une majorité qui se prononce contre l'accord qui aura été intégré dans la Constitution, on fait comment ?
C'est tout à fait possible, et dans ce cas-là, tout simplement, on revient à la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, la modification constitutionnelle, elle permet, il faut cette modification constitutionnelle pour pouvoir faire un référendum, c'est exactement la même situation pour l'accord de Nouméa, mais si l'accord n'était pas validé par les Calédoniens, la réforme constitutionnelle qui a été faite ne serait plus valide et on reviendrait à la situation d'aujourd'hui.
C'est-à-dire à zéro.
Voilà, un corps électoral gelé qu'on attaquerait, des élections provinciales dont on ne sait pas exactement dans quelles conditions elles se feraient, et tout repartirait à zéro.
Et il faut ensuite, donc ce sera... L'étape suivante, c'est la loi organique spéciale.
Oui.
Alors là, sur quoi elle va porter ? Elle va traduire dans les faits, dans les textes, l'accord qui aura été intégré dans la Constitution.
Hein. Exactement. Alors, les Calédoniens connaîtront les termes de la loi organique spéciale quand ils s'exprimeront pour le référendum, puisqu'elle aura déjà commencé son chemin. C'est-à-dire qu'en fait, pour des raisons de calendrier... donc les Calédoniens auront connaissance de la rédaction de la loi constitutionnelle puisque celle-là aura été adoptée et la loi organique spéciale aura déjà commencé son circuit dans les commissions, etc., au moment où ils s'exprimeront. Donc ils auront connaissance au moment où ils s'exprimeront de l'ensemble du paysage législatif qui fait suite à l'accord.
Et c'est la rédaction de cette loi organique sur laquelle il faudra être particulièrement vigilant ?
À toutes les étapes, il faut être vigilant. À l'étape de la loi constitutionnelle, de la loi organique, du vote par les Calédoniens et évidemment derrière de la loi fondamentale.
Alors Manuel Valls se disait au lendemain de la signature de Bougival, ou 48 heures après, le plus dur reste à faire. Parce que maintenant, il faut convaincre les uns et les autres. Chez vous, ça se passe comment ? Vous avez déjà eu un certain nombre de réactions, de retours ?
Oui, on a une grande majorité d'interrogations. On a beaucoup de gens qui... Cet accord, il est dense, il est complexe, avec des notions que tout le monde ne maîtrise pas, et c'est bien normal. Donc on a beaucoup d'interrogations, c'est une bonne chose. Donc on fait des réunions tous les soirs, on s'est démultiplié, on ne fait pas des grandes réunions tous ensemble, mais on sait, l'ensemble des participants de la délégation loyaliste et rassemblement, donc on était 7, fait des réunions séparément pour expliquer.
Beaucoup de pédagogie.
On a des opposants qui se sont opposés dès les premières heures après la signature de l'accord, je le respecte. Le débat aura lieu, il y aura des pour, il y aura des contre, c'était le cas au moment de l'accord de Nouméa. Ce sera le cas, et je le vois également du côté indépendantiste, hein, on a des gens qui ne sont...
Est-ce que vous craignez qu'ils n'arrivent pas à convaincre leur base, ou est-ce que vous pensez qu'ils ont assez d'éléments, d'arguments pour justifier leur signature ?
Moi, je crois que quand on signe, il faut assumer sa signature et faire le job après pour essayer de convaincre. Mais il y a évidemment un risque. Il y a évidemment un risque. La violence qu'on a subie ces derniers mois fait que c'est difficile de faire revenir tout le monde dans un état d'esprit de dire on va essayer de construire l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ensemble. Personne n'est devenu bisounours, personne n'est naïf, personne ne pardonne. C'est comme ça, ça existe, ça fait partie de notre ADN aujourd'hui. Donc c'est possible que les indépendantistes aient du mal à convaincre, c'est possible aussi que nous ayons du mal à convaincre et qu'après explication, on n'arrive pas à convaincre. Tout est possible. En tout cas, on est... Moi, cet accord, il y a des gens qui me disent oui, mais peut-être que vous n'aviez pas le choix ou que vous aviez eu la pression du président de la République. Je dis non, je dis on n'a eu aucune pression du président de la République. On n'aurait pas signé quelque chose sur lequel on n'était pas d'accord. Je considère que cet accord est un bon accord et qu'il est dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Pas dans l'intérêt d'un camp ou d'un autre, mais qu'il est dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie.
On parle d'un projet d'accord. Quand est-ce qu'il va devenir véritablement accord ? Quand est-ce qu'il va être... Et sous quelle forme va-t-il être signé officiellement ou
Alors, c'est un peu l'inconnu. Je pense qu'il doit y avoir une signature officielle ici, dans quelques semaines, parce que cet accord, je pense qu'il y a peut-être des choses qui, d'un point de vue juridique, demandent peut-être des ajustements, j'en sais rien, mais en tout cas, ça doit prendre une forme qui soit constitutionnalisable. Donc, il y a des choses, vous avez parlé de la partie économique, il y a des choses qui peut-être doivent pas être dans la même partie, enfin j'en sais rien, mais en tout cas il doit y avoir une ratification officielle ici d'ici quelques semaines.
Et on va l'appeler comment ? C'est déjà, ça va pas être l'accord de Bougival quand même.
C'est pas très beau l'accord de Bougival, franchement.
C'est pour ça, il faudrait
c'est pas génial.
Peut-être trouver quelque chose. Eh bien merci Sabaquette pour toutes ces précisions. Question subsidiaire, mais là sous votre casquette de présidente de l'Assemblée de la Province Sud, on a appris que le haut-commissaire avait notifié officiellement la non-éligibilité à Philippe Gomez et à Philippe Michel après leur condamnation pour cette affaire d'emploi fictif. Ils en sont où ? Ça veut dire qu'ils peuvent siéger à la province sud ou que c'est fini, ils n'ont plus de mandat ?
Alors, si j'ai bien compris la procédure, ils doivent donc aller chercher leur courrier recommandé avec accusé réception qui leur signifie leur démission d'office. Une fois que le haut commissariat aura reçu cet accusé de réception, ils vont notifier à Velma Falaéo et à moi-même la démission de fait de Philippe Michel et de Philippe Gomez, qui s'imposera à nous, et donc ils ne seront plus élus à la province sud et au Congrès. Je crois qu'ils vont déposer un référé qui donc ensuite suivra son cours. S'ils le gagnent, eh bien, ils reviendront dans les assemblées, sauf si le référé est traité dans les quelques jours qui suivent et que la décision va dans leur sens.
Mais dans un premier temps, ils pourraient donc ne pas pouvoir siéger dans les prochaines assemblées de province.
Exactement.
Merci, Sabaquette, d'avoir répondu à toutes nos questions. La fin de ce magazine Transparence.